l'explicationnel.
Ok. Bon, eh bien, bonjour, messieurs, madame.
Bonjour, mademoiselle.
Alors là, c'est la conférence d'introduction d'un cycle qu'on a mis en place ici à l'atelier, qui s'intitule « Fil d'Ariane ». Et cette introduction va traiter de ce regard féminin qui serait utile de voir, de saisir, de valoriser pour sortir de l'impasse, de certaines impasses dans lesquelles la société se trouve aujourd'hui. Alors, bon, moi je voulais parler du mouvement auquel j'appartiens. Bon, il y en a qui connaissent déjà ici. Benjamin, je pense que toi, non. Donc, c'est un mouvement de femmes qu'on essaye de lancer depuis 2013. Et on a un petit groupe pour le moment. Et ce qu'on affirme dans ce mouvement, c'est qu'être une femme, c'est une richesse pour soi-même et pour la société. Et que hommes et femmes, dans leur complémentarité, contribuent à l'équilibre de la société. Et ainsi qu'à la réalisation de l'objectif de toute société qui est l'entraide des hommes entre eux pour réaliser l'humanité qu'ils portent. Et mais c'est pas la prospérité, la paix, le progrès, tout ça, c'est secondaire. Voilà. Et dans cette perspective, le mouvement, il se propose d'étudier et d'agir sur la condition féminine en France et d'étudier le rôle des femmes dans la société pour leur permettre d'apporter tout le bien qu'elles ont à apporter à cette société. Et puis, on essaye aussi de fournir des outils pour ça. Ça, c'est le mouvement. Et moi, j'aimerais bien parler de la raison de mon engagement, parce que ça va me permettre d'introduire la conférence. C'est assez parlant. On est tous arrivés avec des motivations personnelles qui nous étaient propres et qui différaient, quoi. Des constats, des aspirations assez différentes. Mais on partageait tous le fait qu'être une femme, c'était une richesse, mais qu'aujourd'hui, on n'arrivait pas à en vivre parce que c'était pas reconnu par la société. Alors, pour ma part, moi, je viens d'un milieu... Enfin, c'est pas mon milieu familial, mais c'est le milieu... surtout l'école, en fait. C'était une école privée dans laquelle j'ai grandi et j'ai évolué. C'est un milieu où les femmes sont faites, et surtout sont que faites, parce que pour moi, c'est là où est le souci, pour être des épouses et des mères.
Modèles,
ouais. Pour être au foyer, humbles et modestes. Ça, on me l'a bien appris. En retrait par rapport à l'homme qui détient l'autorité et auprès duquel elles ont plutôt un rôle de conseil à jouer, dont l'action sur la société se résume, enfin se fait en tout cas au moyen de l'éducation des enfants. Et c'est aussi des femmes chez qui le cœur parle plus que l'intelligence, des femmes qui sont aptes aux sciences humaines, des femmes qui sont aussi dangereusement charnelles, etc. Voilà. Donc ça, c'est le... Bah oui, mais c'est bon.
C'est le social dans lequel j'ai grandi. Dangereusement charnel, c'est
très bien. Bon, en tout cas, c'est une perspective qui a montré ses limites et qui a été critiquée, enfin, dont on a montré les aspects, en tout cas, dangereux, en long, en large, en travers. Néanmoins, j'estime que c'est quand même en partie vrai. Et bon, bref, en tout cas, moi, il se trouve que dans ce milieu-là, je me sentais pas à l'aise. Déjà, j'avais bien le sentiment que la place qu'on avait, nous femmes, était moindre que celle des hommes. On avait plutôt un rôle secondaire qui vient après. On est là pour aider, pour accompagner. Et donc, en tant que femme, moi, j'existais pour les hommes. Et ça me donnait un certain sentiment d'incompréhension. Pas tellement d'injustice ou de révolte à l'époque, mais d'incompréhension. Je me disais, mais pourquoi ? Enfin, je comprends pas. Et par ailleurs... Pour ma part, j'avais pas beaucoup de goût pour tout ce qui était féminin, quoi. Déjà dans mes jeux, jouer au tracteur, aux Indiens, à la guerre, les rôles de princesse, ça me plaisait pas du tout.
Un beau format.
Ouais. Et donc j'avais aussi un sentiment, en plus d'incompréhension, d'étroitesse, quoi. Je me sentais un peu étriquée dans ce rôle-là. Et je me disais, mais on me propose d'être autre chose que moi, en fait. Et tout ça résultait le fait que je me disais qu'être un garçon, c'était mieux qu'être une fille. C'est vrai, hein.
Ouais.
J'ai vécu un peu la même chose. Quand j'étais soldat, mais quand j'étais petite, je jouais avec des petites voitures dans une éducation qui ressemblait à ça.
Ouais. Et puis mon père aussi, avec ses filles, Il nous éduquait un peu à la garçonne, quoi. Il aimait l'idée qu'on soit indépendante, entreprenante, on allait jouer dans la colline. Il nous achetait pas des fringues de filles. Moi, une fois, je lui ai dit, j'aimerais bien avoir des chaussures vernies. Il m'a dit non, hors de question, il m'a acheté des grosses chaussures.
Hors de question que tu les abîmes le même jour.
Donc, ouais, c'est ça, quoi.
Hors de question que tu les écorches le même jour.
Donc, il y avait ça. Et mais d'un autre côté, quand je me tournais vers la société, là, pour le coup, en tout cas, la société, moi, telle que je la voyais, parce que maintenant, je vois bien qu'il y a aussi des travers, mais bon. La société, elle me libérait de cette condition en favorisant et en valorisant l'épanouissement individuel, l'indépendance, la liberté sexuelle notamment, en plaçant la maternité et la vie au foyer comme secondaire et non nécessaire. Et on me donnait la possibilité d'être moi-même, mais surtout, et ça c'est important, on me donnait la possibilité d'être qui je voulais. La porte est ouverte là-bas.
Je crois que Ibrahim, tu veux bien aller refermer la porte? Non, mais c'est Ibrahim qui vient de passer, va y aller.
Ouais, je veux bien.
Il faut, ouais, parce que c'est portable.
Tam tam, enfin, sur l'enregistrement, je sais pas ce que ça donne.
Là, c'est fermé?
Non.
La porte, elle est fermée? Non, c'est non, fermé. Non. Le rideau est fermé.
Je l'avais fermé tout à l'heure.
Oui, mais il vient de venir, donc il a ouvert, il a pas refermé.
Pardon.
Donc, on me laissait la possibilité d'être qui je voulais être. Et c'était la consécration de mon statut d'individu autonome, donc ça veut dire que c'est moi qui pouvais me faire, et d'être humain, et la relativisation des normes. Et au bout du compte, la dissolution de mon identité de femme. Et ça, je le percevais très bien, mais même adolescente, quoi, je me souviens. Et j'étais libre, mais libre pour quoi faire, quoi. Et il me semble aujourd'hui qu'en me rendant toute puissante, en fait, je devenais toute impuissante. Et le sentiment que j'éprouvais, maintenant je mets des mots dessus, c'était celui d'une aliénation au sens propre. C'est qu'on me rendait étrangère à moi-même, tu vois. Et mais là, dans les deux cas, dans le premier cas, parce qu'on me volait ma personnalité et on niait mes talents, ma vocation singulière au nom de la féminité. Et dans le deuxième cas, parce que pour me libérer de ces entraves, eh ben, on me rendait neutre. Et en me rendant neutre, on me neutralisait, en fait. Ça me plaisait pas du tout. Et oui, et l'idée de neutralisation, elle est importante ici parce que ça me permet d'aborder un point dont j'ai pas parlé avant, qui est fondamental, c'est celle de l'autre, la relation à l'autre. Parce que ce qu'on est et ce qu'on fait, ça a un impact sur l'autre. Et je dis ça, je veux pas parler d'un impact matériel ou d'une relation de cause à effet plus ou moins mécanique. On vit en société, on est en interaction avec les autres, donc ce que je fais va avoir un impact bénéfique ou au contraire ou quelque chose ouais, maléfique. Enfin, les gens se voient sans en bénéficier, sans en pâtir. C'est pas tellement ça, c'est plutôt une considération anthropologique, psychologique, même spirituelle. C'est que on existe pour soi, par les autres, pour les autres, mais surtout, plus justement, on se réalise qu'en vivant pour les autres. Et ça, c'est dans la constitution de notre humanité. Notre vocation humaine, à mon sens, c'est d'aimer et d'être aimé. Et on se réalise, et on la réalise en nous, qu'en entrant dans cette dynamique-là. Et ça, c'est très important pour mon propos, parce que ça signifie que si je suis femme ou si je suis homme, je le suis aussi ou je le suis d'abord pour les autres. Donc quand on me rend neutre, on porte atteinte à qui je suis, et ce faisant, on neutralise l'action, les effets que j'aurais pu ou que j'aurais dû avoir pour les autres. Et c'est pour ça que la question de la féminité ou de la masculinité, c'est social, quoi. Voilà. Et d'où la réflexion qu'a apporté le mouvement sur l'impact des femmes ou la reconnaissance du féminin dans la société. Et ça rejoint ma préoccupation qui était centrale à l'époque et qui est toujours, c'est que pour moi, être une femme, c'est une richesse. La dualité sexuelle, c'est une richesse, c'est une merveille. Et en la brisant, on brise l'harmonie de la société et la beauté de la nature. Et c'est, pour moi, ça a toujours été une grande tristesse, quoi, de songer à ça, un peu comme si c'était une œuvre magnifique d'un peintre qu'on gâchait et qu'on jetait à la poubelle, quoi.
Tu as dit la dualité sexuelle.
Ouais.
C'est une richesse.
C'est une merveille. Ça m'émerveillait. Ça m'émerveillait toujours, en fait.
C'est un peu comme un tableau dont on choisirait de retirer une couleur. Tu vois.
Ouais. En fait, quelque chose que tu trouves beau et tu t'extasies devant, ouais. Et tout d'un coup, on le jette à la poubelle.
Ouais, mais
et tu te rends compte de ce que je perds, en fait.
Ouais,
et
c'est une bonne idée. Je vais faire un tableau comme ça. On va faire une image comme ça, avec des couleurs, et puis retirer une couleur, retirer une autre couleur. Et voilà, il manque quelque chose, non?
Ouais, ça peut être une idée. Et bon, par rapport à cette richesse de l'altérité sexuelle, moi, je voulais vous proposer quelques considérations. C'est moi qui les ai écrites. Mais bon, c'est suite à la lecture, enfin, je suis très inspirée par ce que j'ai pu lire de Lévinas ou dans quoi est-ce que j'ai lu ça ? Si, enfin, plutôt des phénoménologues, Fabrice Adjadj dans la profondeur des sexes, que j'ai pas lu en entier, mais j'en ai lu des bribes et tout, et ça m'a quand même assez marqué. C'est que l'autre sexe, c'est important ça, c'est celui. Je vous jette ça comme ça, après vous méditerez, vous pensez ce que vous voulez, mais c'est celui qui me fait éprouver ma propre finitude et en même temps qu'il m'ouvre vers l'infini.
Tu peux répéter doucement ?
Ouais. Bah, c'est en face de l'autre sexe, j'éprouve ma propre finitude.
Non, et en fait, la finition elle-même. Excuse-moi, je note et après je veux bien. Ouais. C'est parce que moi je suis un petit peu long à la réflexion.
L'autre sexe me fait éprouver ma
sexe,
finitude.
T'avais dit, l'autre sexe c'est.
C'est celui. qui me fait éprouver ma propre finitude, mes limites, en même temps qu'il m'ouvre vers l'infini. Et ouais, par exemple, ça c'est marrant quoi. Enfin, dans les rapports sexuels, et ben l'autre, il comble mon désir de fusion quelque part. Tu peux même l'avoir en toi ou toi t'es en lui. Enfin, en elle plutôt, ça dépend. Et finalement, il me laisse vide au bout du compte. Enfin, il me laisse en face de mon vide existentiel. Quand il se laisse saisir par toi, bah, finalement, c'est pour se révéler encore plus insaisissable. Et...
Waouh, magnifique.
Mais oui, c'est magnifique.
Beau, ouais, non,
c'est
mais c'est
la tournure magnifique.
C'est ça.
Et il y a d'autres paradoxes. D'accord. Par exemple, il va m'éviter l'écueil de me croire créateur de toutes choses. Et en même temps, il me donne l'occasion de donner la vie. C'est magnifique.
C'est paradoxal.
Il va m'éviter, ça si, c'est beau, l'inévitable et stérile monotonie de l'identité, où on envisage toujours les choses du même point de vue, on agit avec elles, avec les mêmes ressources, on est contraint à répéter toujours les mêmes histoires. Par sa différence, eh ben, il nous permet d'entrer dans un mouvement créateur, une dynamique de l'imagination, une quête de la vérité, parce que nécessairement, on a des perspectives différentes, et donc ça se complète, on s'ajuste. Autre chose, il m'évite l'écueil de me croire seul, parfait exemplaire de l'humanité. Ça, c'est surtout pour vous, messieurs. Et c'est beau parce qu'il nous dit qu'on est humain qu'en face de l'autre, que dans un dialogue. Il m'évite aussi de me croire auto-engendré, autonome, et en même temps, il me donne la joie de donner le sens de l'existence à un autre être. Et ça, c'est très fort que ce soit dans l'altérité sexuelle, parce que on pourrait dire, bah non, on est plusieurs sur cette terre, on est tous différents, bah non, parce que enfin les autres ils existent, mais c'est accidentel, enfin on pourrait être un, mais là c'est dans la constitution de l'humanité, on est deux, et l'humanité elle ne se réalise que dans la dualité en fait, et c'est ça que je trouve très beau. Là j'en ai donné des petits exemples, mais on pourrait certainement en trouver d'autres et peut-être des plus concrets. Voilà. Et avec ces choses-là qui ont été dites, il me semble que se dessine en filigrane l'idée d'une vocation. Et moi, c'est ce à quoi je crois. Et il me semble que ça, le fait de considérer que la dualité sexuelle est à trouver dans une vocation, eh ben, déjà, je pense que c'est juste et c'est aussi libérateur. Et ça nous libère de quoi ? Eh ben, d'une part, de la pensée selon laquelle les différences hommes-femmes sont exclusivement sociales et construites. Ça, c'est la position d'un relativisme matérialiste, auquel je n'adhère pas. Et ça nous délivre aussi de l'idée que les différences hommes-femmes sont à charger dans notre constitution physiologique ou psychologique, et ça, c'est la position d'un naturalisme réductionniste, tu vois, qui nous réduit à ça.
Que de mots.
Parce qu'avec ça, être une femme, c'est une liste d'aptitudes, d'inclinations à être douce, aimante, généreuse, intuitive, nanana. Mais du coup, si on n'est pas que femme, si on n'est pas ça, est-ce qu'on est toujours une femme ? Et bah, avec l'idée
est-ce
de la vocation,
comme moi, oui, voilà. Toujours on regarde.
Bah, non, justement, on n'est pas vu comme, mais si tu t'en tiens à une vocation, même si t'as pas telle qualité féminine, nanana, t'es quand même une femme. Tu vois.
Même sans
je trouve que c'est libérateur à ce point de vue-là aussi.
Oui,
ça peut arriver.
Une
femme.
Et oui.
On t'a reconnu. T'es une bombe.
Ouais. c'est fermé. Bon, bah, écoute, c'est pas grave.
Ça, parce que ça monte en pression, je pense. Et tu commences à faire chaud, puis ils ont pas mis les ventilateurs. Et puis voilà, quoi. C'est énorme.
Ouais. Alors, donc, penser la vocation, c'est dire « Je suis une femme pour apporter ceci au monde et me réaliser en se faisant, quoi. » Et c'est de cette mission, c'est très important ça, que découle l'organisation physiologique, psychologique et secondairement encore les rôles, les codes sociaux, etc. Mais la féminité, ça ne réside pas en eux. Le féminin, sans doute, mais pas la féminité. Tout ça, c'est des expressions de cette vocation première. Et ça me semble fondamental. Et là, j'aimerais bien convoquer Edith Stein, qui est une philosophe allemande.
Comment tu l'écris ?
Alors, Edith, E-D-I-T-H, et plus loin, Stein, S-T-E-I-N. Et elle a une réflexion, justement, sur cette question de la vocation féminine. Alors, je vais juste vous dire un mot à propos d'elle, trois mots sur sa biographie, quoi. Elle naît en Allemagne en 1891. C'est la première femme à accéder au titre de docteur en philosophie dans son pays. Elle est la première à avoir demandé officiellement que les femmes soient admises à présenter une habilitation au professorat. Elle a défendu l'accès aux universités pour les femmes et milité pour le droit de vote. Et elle a fait énormément de conférences sur la condition féminine et surtout sur l'éducation des femmes dans son pays. Alors je ne sais pas si on en a fait...
Éducation intellectuelle.
Enfin l'éducation. Non, tout, ouais. Éducation pour... Non. Comment t'éduques une femme, en fait, à devenir femme?
Ah oui.
Parce qu'en Allemagne, bon, je posais la question...
À devenir femme, mais aussi à devenir une personne singulière. Et c'est ça qu'elle a porté à son époque, pour le coup. Et elle était phénoménologue. Elle a été l'élève et l'assistant de Husserl, qui est le fondateur de la phénoménologie. Elle est aussi d'origine juive... Et elle a connu une conversion tardive au catholicisme et elle est entrée au Carmel. Voilà. Et sa conversion, ça va l'engager sur une autre voie. Elle va penser que les revendications féministes de son époque ne suffisaient pas et qu'il fallait développer une théologie catholique de la femme et ce qu'elle a fait, en fait. Oh. Voilà. Et c'était tout à fait. En fait, c'était tout à fait novateur pour l'époque. En fait, on a ces conférences. Ça s'appelle Edith Stein, je sais pas quoi. Enfin, c'est aux éditions du Cerf. Il y a un gros pavé. Je voulais l'acheter, mais ça coûte 50 euros. Alors.
Voilà, qu'on se cotise pour l'avoir à la bibliothèque.
Ouais, ça, je me suis dit.
3 ou 4 des gros pavés comme ça.
Ah ouais. Ouais. Mais sur ces conférences sur la femme, c'est résumé en un. Et ensuite, elle est morte martyre du peuple juif à Auschwitz en 42. Elle est morte gazée. Et volontairement, c'est ça qui est beau, bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec le propos, mais parce qu'on lui a proposé, en fait, de ne pas monter dans le train parce qu'elle était religieuse et de lui éviter ce sort-là. Et en fait, elle a dit « Non, jamais, quoi. Je reste avec mes frères et sœurs et j'y vais. » Et elle est partie, quoi. Ça, c'est Edith Stein.
Okay. Une grande dame.
Ouais, une grande
Bravo femme. Moi, je dis pipi, Edith.
Ouais. Une très grande dame.
Je vous aime.
Au revoir.
À la semaine prochaine.
Alléluia. Amen.
Elle pourrait écouter la conférence de Marine.
C'était ça.
Bah oui. On parle des femmes. On parle des femmes.
C'est pas grave.
Il faut lui rappeler parce que personne ne lui a dit. Lui, il n'a pas dit. Et c'est une conférence pour les femmes, avec les femmes, sur les femmes. Là, je peux rester.
Oui, mais moi, j'aime bien ça.
Et bien, pour rester.
Bon, j'ai quelque chose à faire et puis j'étais pas programmée.
Alors, c'est des choses à faire.
C'est pas grave, hein, c'est pas programmé, tu t'assois et t'écoutes.
J'ai quelque chose à dire aussi, c'est les femmes, c'est normal.
Non, mais c'est pas un débat, c'est Marine qui nous expose des choses sur
c'est
les femmes.
Un exposé, voilà.
Oui, je comprends un petit peu parce que j'ai déjà participé à semaine dernière, 26-28 mars là, avec d'autres femmes, qu'on avait des textes. À dire quoi.
Okay. À partager. Ouais.
Oui, à partager.
Mmh. Ok.
C'est pareil bien. Comme ça ici là.
Oui, c'est pareil, c'est la même chose. C'est ça. Sauf ces femmes sont plus grandes qu'elles seulement. Mais il y en a une grande.
Mais elles, ce sont des grandes femmes sur des petits sièges.
Marine est une grande dame. Marine est une grande dame.
Faut pas écouter ce qu'elle raconte.
Non, mais c'est les grandes dames, c'est la lase que je parle.
Ah ouais.
Bon, bah, bonne soirée.
Merci.
À bientôt.
Ciao, maman.
J'ai aimé même le texte qu'ils ont donné. Jusqu'à j'ai gardé un petit bout pour moi, souvent pour regarder.
Ça, c'est doux. C'est doux.
Je reprends ?
Oui.
C'est bien doux.
Okay. Oui.
Alors, notre Edith Stein, elle replace l'homme et la femme dans un ordre...
Ça fait plaisir, maman.
Oui, ça fait plaisir.
À bientôt, alors.
À bientôt.
Oh, ouais. Moins le quart. Moins le quart, moins 10, là-bas. Ok, à tout à l'heure. Tu ne m'as pas laissé ton téléphone, frère.
Bon, écoutez
donc,
bien,
Einstein.
Elle va replacer l'homme et la femme dans un ordre, une création qui est toujours en cours, plus grand que... à l'harmonie de laquelle ils sont appelés à participer. Bon, ça rejoint ce que j'ai dit au début, quand même. Je vais vous lire une citation d'elle. « Je suis convaincue de ce que l'espèce humaine se déploie en tant qu'espèce binaire, l'homme et la femme, que la nature de l'être humain auquel aucun trait caractéristique ne saurait manquer ici comme là, se manifeste sous une forme binaire et que toute sa constitution essentielle révèle son empreinte spécifique. » Ainsi, ce n'est pas seulement le corps qui est constitué différemment, ce ne sont pas seulement les diverses fonctions physiologiques individuelles qui diffèrent, mais c'est toute la vie somatique qui est autre, autre les rapports entre l'âme et le corps, autre à l'intérieur du psychisme, les rapports entre l'esprit et les sens, comme les rapports des facultés spirituelles entre elles. Voilà. D'après Edith Stein, la vocation de la femme, c'est d'être compagne et mère.
Compagne et mère.
Ouais. Alors,
donc elle, complémentaire.
Compagne et mère, ouais. Je suis pas sûre d'avoir saisi.
ça viendra au prochain cours de l'étymologie des
vaginales. Ça marche. Et elle dit que tout en elle la prédispose à cela. Par exemple, les relations interpersonnelles, l'intuition, l'émotion, le fait qu'elle appréhende les choses de manière holiste, etc. Et pour elle, c'est à la fois un constat empirique et aussi quelque chose qui appuie sa foi judéo-chrétienne. Voilà. Alors, ça c'est important. La conséquence de ça, c'est que hommes et femmes ont des prédispositions naturelles à telle ou telle chose que l'on remarque à la manière dont ils vivent le monde à travers le filtre de leur constitution psychophysiologique. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont avoir telle ou telle qualité ? Non. Ça veut dire qu'ils ont des prédispositions à... qu'ils ont des qualités qui sont en puissance, en devenir. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il faut les pousser à les développer ? Ben oui. De la même manière qu'il faut aider une personne à réaliser ses potentiels. Voilà. Mais alors, attention, et là, je m'appuie sur le bon sens d'Edith Stein... Elle dit que, je suis d'accord avec elle, une personne humaine, c'est pour ainsi dire composée de trois couches qui s'interpénètrent. T'as la couche de l'humanité, qui nous est commune à tous. T'as la couche de la sexuation, qui distingue les hommes et les femmes. Et puis t'as la couche de la personnalité. Là c'est chacun pour soi. Et donc si la première, l'humanité, ne se réalise qu'à travers la seconde, la sexuation... Ces deux-là, humanité et sexuation, ne se réalisent elles-mêmes qu'à travers la dernière, la personnalité. Et c'est la dernière, c'est la personnalité qui est déterminante et prioritaire. Et dans cette personnalité-là, on peut bien avoir des dispositions qui font partie des caractéristiques masculines chez les femmes ou féminines chez les hommes. Ça, c'est pas un problème. Bien au contraire. Et là, je vais encore citer Edith Stein. Là, c'est une conférence d'elle... qu'elle a donnée en 1930 à l'occasion d'un congrès. Sa conférence traitait de l'éthique des métiers féminins, et elle va lui donner une notoriété assez importante. C'est la seule femme à prendre la parole, et donc elle refuse la misogynie de l'époque en affirmant qu'aucune femme n'est que femme. Chacune a sa particularité et sa disposition au même titre que chaque homme. Et dans cette disposition, le talent pour telle ou telle activité artistique, scientifique ou technique. En principe, dit-elle, la disposition individuelle peut se manifester dans n'importe quel domaine, même dans ceux qui n'ont rien à voir avec la spécificité féminine.
Elle a dit ça au 19e siècle ou
en 1930.
En 1930.
Au 20e.
Mais bon,
au 19e, ça passait un peu plus mal.
Ouais, ça passait plus mal encore.
C'est clair.
Et puis, moi, j'ajouterais aussi que ces prédispositions masculines ou féminines renvoient avant tout à des aptitudes humaines, et donc présentes chez les uns et chez les autres. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même interpénétration du masculin et du féminin, et puis aussi communication possible entre les femmes et les hommes. Bon, même si parfois, c'est compliqué, mais quand même. Et pourquoi ? Parce que précisément, la femme, c'est pas le féminin. Si la femme, c'est le féminin, alors être femme, voilà, c'est être douce, mère, altruiste, et que serait un homme qui posséderait ces qualités ? Ça n'a pas de sens. On peut dire que c'est une femme. Être femme, c'est pas le féminin, c'est avoir une vocation à. C'est bien ce que je disais. Enfin, on retrouve ce que je disais au départ. Et donc, les dispositions naturelles ou acquises des femmes, ou autrement dit, le féminin, peuvent parfaitement se retrouver chez des hommes et inversement. Il y a des femmes masculines, des femmes féminines, et c'est très bien comme ça. Féminin et masculin, ce sont des notions qui sont transgénériques, transgenres, tu vois. Voilà. Alors moi, quand je dis « regard féminin pour sortir de l'impasse », eh ben, je souhaite que les perspectives féminines qui empruntent les traits des femmes ou bien ou dont les femmes sont les héros, avec LT à la fin, soient considérées par tous, pas seulement par les femmes. Et j'appelle les hommes, avec un petit H, à opérer un décalage sous l'influence des femmes afin d'équilibrer leur point de vue. Et donc, quelque part, je souhaite des hommes féminins. Tu me suivez ?
Ouais.
J'entends bien.
T'entends bien ? Voilà. Alors, je sais pas si ça rejoint la perspective du yin et du yang, ou de l'adimus et de l'anima de Jung. Je connais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a des points communs, mais bon.
Alors, comment t'as nommé ton chapitre ?
Lequel ? Celui-là, tout de suite,
anima,
là ?
Animus,
non. Non, mais je vais pas les aborder, en fait, parce que je maîtrise pas trop. Mais il y a peut-être des trucs à creuser par là. À voir. I don't know. Alors, quid des fonctions sociales et des codes comportementaux genrés ? Là, j'en parle juste par précaution, parce que je ne veux pas que ma pensée se prête à des considérations hâtives sur une femme s'est fait pour faire ci, faire ça, et puis c'est tout, quoi. Donc, il me semble que les fonctions et les codes comportementaux genrés ne sont là, ou plutôt, ne devraient être là, que pour permettre l'épanouissement sexué de chacun et leur rayonnement bénéfique sur la société.
Le rayonnement bénéfique
sur la société. Il faut faire très attention à ne pas déduire de la présence de ces prédispositions ou propensions naturelles des qualités qui seraient nécessairement présentes et un rôle social qui serait nécessairement tel. Il y a certains qui ont la dangereuse tendance à penser que les qualités et les normes sociales, donc par normes sociales, j'entends rôle symbolique, place dans la société et codes comportementaux, donc que tout ça serait la conséquence directe et nécessaire de nos différences, mais pas du tout. Le fait que les femmes n'aient pas eu le droit de vote, pas accès à un compte en banque, ouais. La minorité juridique, etc., c'est pas une conséquence directe de la nature. Pas du tout. Enfin, ça semble évident dit comme ça, mais ça l'a pas toujours été, en fait.
Il y a eu interaction.
Voilà. Entre les prédispositions et les qualités développées, on a, et le rôle social, il y a tout le jeu de la liberté, du conditionnement social et de la personnalité qu'on a vu au-dessus. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a correspondance, peut-être convenance entre tel rôle et des prédispositions sexuelles, mais il n'y a pas de lien nécessaire et direct. Il y a une quantité de manières différentes d'être une femme, et qui se traduit d'ailleurs très justement par juste une manière d'être, et pas des tâches ou des fonctions dédiées. C'est bon ? Vous me suivez ? Donc on peut vouloir marquer, délimiter, séparer les champs du féminin et du masculin. Est-ce que c'est sain ? Peut-être. J'avoue que la question reste ouverte pour moi, mais c'est peut-être sain. Mais en tout cas, il ne faut jamais oublier que ça reste une façon parmi nous d'incarner les différences et que ces différences peuvent être injustes et donc remises en question. Il ne faut pas avoir l'impression qu'on remet en question la nature quand on remet en question toutes ces...
L'ensemble des choses.
Ouais, tout ce... le genre, quoi. Voilà. Voilà pour cette petite précaution. Alors, moi, maintenant, j'aimerais présenter l'idée que le féminin, et non plus la féminité, le féminin, c'est... Enfin, ouais. C'est une présence au monde. Étant constituées différemment, les femmes et les hommes auront une présence au monde différente et caractéristique. une façon d'éprouver le monde, de comprendre le monde, de dire le monde, d'entrer en relation avec lui et d'agir sur lui, qui ne sera pas la même que celle de l'autre sexe.
Complémentarité oblige.
Oui. Du moins, c'est ce que je crois.
Idem. Égalité, non, ça c'est bien. Jusqu'alors.
Alors, comment est-ce qu'on peut caractériser cette manière d'être et d'agir, de recevoir et de donner? Alors, moi, j'aimerais bien explorer quoi, la piste de la phénoménologie. Bon, c'est un gros mot dit comme ça, mais je vais vous expliquer pour penser la femme. C'est qu'on va prendre ces expériences de femmes singulières pour en dégager quelque chose de commun. Bon, c'est très réducteur hein, comme façon de définir, de dire les choses, je sais, mais bon, dans l'idée, c'est à peu près ça. Alors, là, habituellement, nous vient l'idée que la difficulté, ça va être de distinguer entre ce qui est naturel et ce qui est social, quoi. Comment est-ce que, quand tu prends les expériences des femmes et que tu essayes d'en retirer quelque chose de commun, comment t'es sûr que ça va être la quintessence du féminin et pas les normes sociales? Mais en fait, c'est faux. C'est pas l'enjeu, parce que le naturel et le social, ils sont complètement, enfin, inextricablement imbriqués et liés. C'est pas possible. Mais pour moi, la difficulté, ça va être de savoir identifier les comportements et les assignations qui sont réducteurs, injustes ou aliénants, les justifications erronées au nom de la nature de la femme, etc.
Donc un décodage oblige, quoi.
Bah ouais, mais c'est un travail délicat, dont l'enjeu est de ne pas reproduire les stéréotypes et les traitements injustes et oppresseurs. Bon, j'ai pas de méthode. Hein.
T'as été chercher des phrases. Hein.
Mais ça vient de ma tête.
Attends, s'il te plaît, est-ce que tu peux me quitter ce que tu veux me dire? S'il te plaît, merci beaucoup.
Si tu veux, je te laisse ma feuille pour après.
Non, ça ira, merci. Juste la dernière phrase.
La dernière phrase?
Oui.
C'est un travail délicat, dont l'enjeu est de ne pas reproduire les stéréotypes avec un Y.
Pardon, excuse-moi, j'ai pas... J'en suis à D, mais je marque un T. Tu vois.
De ne pas reproduire un travail délicat, dont l'enjeu.
Donc, l'enjeu.
Et de ne pas reproduire...
Et de ne pas reproduire...
Les stéréotypes... Et traitements injustes et oppresseurs. Point. À la ligne.
Les traitements
injustes et oppresseurs.
Injustes et oppresseurs.
Point à la ligne. Majuscule. Cela dit.
Oppresseurs. Comment on écrit point à la ligne?
Point. Non, tu mets point. C'est fini. Voilà. Oui.
Bon, ça y est, j'ai le nouveau refrain du prochain texte.
Donc je suis conscient qu'il y a ce risque-là et qu'il faut faire attention. Après, je ne saurais pas trop vous dire.
Ça, c'est toi.
Donner de méthode, quoi.
Ça, c'est toi, ça, c'est Marine 2017, quoi.
Bah, c'est moi, mais inspiré par. Enfin.
Le dis pas.
Inspiré par le féminisme, quoi.
Par toi, quoi.
Bah, je ne suis pas sûre d'être la représentante.
Bah, écoute, si tu te permets de faire quand même une conférence, c'est que tu penses qu'on puisse t'écouter.
C'est sûr. Bon, cela dit, je vais vous proposer une présentation de ce qu'est la démarche phénoménologique. Plusieurs phrases, c'est pas forcément des définitions type, mais c'est se proposer d'étudier les choses telles qu'elles apparaissent à notre conscience. On va se pencher exclusivement sur l'expérience vécue. Se demander qu'est-ce que les choses révèlent d'elles-mêmes quand elles nous apparaissent et qu'est-ce qu'elles révèlent de notre conscience. Et du coup, appliqué au sujet qui nous occupe, quelle est la conscience féminine des choses? L'expérience vécue des femmes est-elle particulière? Et là, j'ai une situation un peu longue, mais je trouve qu'elle est assez éclairante, de quelqu'un qui s'appelle Xavier Lacroix, qui est phénoménologue et membre du Comité consultatif national d'éthique. Tu peux l'abrévier en CCNE.
Je vais noter Xavier Lacroix, je vais voir ce qu'il a noté.
J'ai des bouquins, je te les prête si tu veux.
Ça viendra.
Alors je sais plus de quel livre, je crois que son livre c'est Retrouver le corps. Alors il dit: devant nous est toujours la tâche de reconnaître les passages entre ce que nous dit l'expérience subjective et ce que perçoit la science objective. Le savoir objectif ne doit pas envahir tout le champ du discours, et inversement, pour qui s'interroge sur le sens, pour qui saisit les phénomènes dans leur globalité et les interprète à partir d'une expérience concrète que nous faisons de la vie, le vivant apparaît d'emblée sur un autre registre, irréductible à tout mécanisme. La vie et l'esprit n'apparaissent plus étrangers l'un à l'autre. La vie du vivant est interprétée à partir de celle de l'esprit, et pas seulement à partir de son infrastructure matérielle. La manière dont je perçois une fleur, un paysage ou l'horizon est révélatrice à la fois du corps, du monde et de ma subjectivité. La manière dont je vis mon corps est significative et source de sens. Je ne désire pas de la même manière à partir d'un corps masculin ou d'un corps féminin. Le plaisir, la jouissance, la souffrance, l'engendrement, la gestation ne reçoivent pas leur sens seulement de la culture et de la volonté. Le sens est aussi donné, reçu, assumé à partir de cette passivité première qu'est l'existence corporelle. Que serait une liberté sans désir, un désir sans vie, une vie sans corps, un corps sans naissance, etc. Avant la séparation du sujet et de l'objet, antérieure à leur division, est le mouvement de la vie, la présence au monde qui est corporelle. C'est pourquoi une phénoménologie du repas, de la respiration, de la danse, du chant, du désir, de l'érotisme, etc. est et sera le meilleur contrepoids à la suprématie actuelle du discours objectif et objectivant. Bon, ça c'était pour les philosophes.
C'était la minute finale.
Non mais du coup, pourquoi la féminité résiste à toute démonstration, toute objectivation, toute réduction dans des cases ? Eh bien, il ne faut pas s'en étonner, c'est qu'elle n'est pas l'objet d'un calcul ou d'une démonstration, c'est l'expression première de notre être. C'est la grille à partir de laquelle le monde est accueilli, donné, vécu. Et donc l'idée là, c'est de comprendre, d'éprouver ce qu'est cette grille féminine. Voilà. Et pour ce faire, j'aimerais bien convoquer quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Camille Froidevaux-Métairie, je crois. Qui est une chercheuse au CNRS sur les questions de genre. Elle est aussi phénoménologue.
Camille Froidevaux.
Ouais. Alors, F-R-O-I.
Oui, non, ça c'est bon, les noms, je sais.
Très bien. Tiré.
A-U-X.
Métairie.
Métairie. Avec Y à la fin.
I-E.
I-E.
Je crois qu'il savait les mots.
Oui, mais pas les noms.
Alors, dans un article qui s'intitule « L'expérience du féminin », elle tente de comprendre la dimension inédite de la condition de la femme contemporaine. Et curieusement, d'après elle, ça met en évidence la dimension féminine des femmes. Alors qu'on pourrait se dire, au contraire, ça mettra en évidence la dimension singulière, universelle, bah pas du tout. C'est la dimension féminine. Alors j'ai résumé un petit peu sa démonstration, enfin son constat plutôt. Elle dit que l'impulsion du mouvement féministe, ça a donné la mise en œuvre d'un phénomène d'égalisation entre les hommes et les femmes. Donc jadis, les femmes étaient exclusivement considérées comme des femmes et réduites à leur condition féminine marquée par la maternité, cloisonnée dans le foyer.
Point sur lequel on est déjà passé.
Voilà. Et tandis qu'aujourd'hui, les femmes sont enjointes de s'accomplir en tant que sujet, en accédant aux fonctions et aux rétributions de la sphère sociale. Et ce qui est un changement salutaire, dit-elle, et moi aussi. Mais elle poursuit. Or, le développement de ce processus est effectué selon une logique cumulative. L'un n'a pas remplacé l'autre. On a l'expression « double journée » aujourd'hui qui dit bien ça. Et là, je la cite. « Mais ce qui se joue là dépasse de beaucoup le constat de la superposition des astreintes et des projets. Il s'agit d'une véritable mutation anthropologique, celle qui voit les deux pôles du féminin et du sujet réconciliés dans la personne de la femme contemporaine. » Toujours incluse dans l'espace intime des relations affectives et familiales, et plus que jamais engagée dans l'espace privé-social du travail. Et elle, à la différence de l'analyse féministe traditionnelle, elle va pas interpréter la permanence de cet attachement à l'espace du foyer comme une rémanence dommageable de l'ancienne condition des femmes soumises à l'ordre patriarcal, mais comme le signe de la force de la dimension incarnée des femmes. Et ça, c'est assez original. Et d'après Camille Froidevaux-Métairie, c'est dans l'expérience de l'incarnation féminine qu'il faut chercher le féminin. Et aussi, c'est que le féminin est caractérisé par la force, la présence et la puissance de la, de la dimension charnelle. Ouais, elle dit ça. La relation des femmes à elles-mêmes et aux autres passe plus que chez les hommes par leur corps, et en particulier, dit-elle, dans ces trois domaines corporels que sont les relations hommes-femmes, la maternité et le souci esthétique qui aujourd'hui sont un peu pointés du doigt. Donc, je sais pas si c'est... Je pense que c'est un avis, en tout cas, c'est un avis intéressant. Je sais pas si on peut résumer le féminin par ça. C'est ce qu'elle fait. Mais bon, c'est une piste à creuser et que j'ai décidé de creuser avec vous.
C'est une approche considérable.
Ouais.
Ouais.
Elle nous propose de faire cette expérience du féminin comme incarnation. Et alors, elle développe et tout. Moi, j'ai choisi juste un exemple. C'est un petit peu long. Mais c'est sur le rapport au temps. Et elle montre comment l'expérience corporelle incarnée, quoi, féminine, va influencer sur la façon dont les femmes conçoivent le temps. Alors, je vais lire. L'expérience du féminin est à la fois physiologique et existentielle, en ce qu'elle renvoie à un certain rapport au temps. Le temps féminin n'est pas le temps cyclique que l'on associe généralement aux femmes du fait de la répétition de leur cycle menstruel. Il est au contraire tragiquement linéaire, rythmé par ces moments décisifs que sont la puberté et la ménopause, qui signalent l'entrée et la sortie de la condition maternelle. Quant au rappel mensuel de la capacité procréatrice, il participe lui aussi au tragique en scandant les étapes d'un parcours de fécondité nécessairement fort clos. Les femmes se voient ainsi signifier dans leur chair qu'elles sont des êtres de transformation, jamais assurées d'une identité stable et irrémédiablement façonnées par la perspective de la dégénérescence et de la perte. Quant aux hommes, bien qu'ils soient habités par l'angoisse de la défaillance et de l'impuissance, aucune rupture ni aucun changement de nature ne vient modifier le cours de leur existence. Ils peuvent ainsi nourrir l'illusion de leur permanence, voire de leur éternité. Elle poursuit, l'expérience du féminin se caractérise, elle, par une conscience aiguë du passage du temps et de la fin de toute chose. L'expérience de la perte nous semble en constituer le noyau. Perte menstruelle qui dise chaque mois la disparition momentanée de la potentielle fécondité, perte de l'enfant qu'il faut laisser sortir de soi puis partir de chez soi, perte de la capacité maternelle elle-même dans la ménopause qui indique aussi la perte irrémédiable de la beauté ou de sa possibilité. L'obsession féminine des traces laissées par l'âge sur les visages, obsession qui n'a rien de contemporain, faut-il rappeler, n'est pas simple angoisse narcissique de la perte de la belle image de soi, elle est aussi le signe d'une sensibilité particulière au déroulement inexorable d'une existence placée sous le signe de la privation et de la décrépitude. Pour ma part, c'est très présent chez moi, ces considérations. C'est vrai, hein ? Alors, vraiment. Le souci que prennent les femmes de leur apparence ne doit pas être compris comme une simple réaction aux injonctions sociales et masculines à la beauté et à la jeunesse. C'est un souci quasi existentiel par lequel s'exprime le lien de consubstantialité existant entre le sujet féminin et son corps. Retenons ici, c'est toujours elle, que l'inscription de la finitude dans le corps des femmes rend impossible toute compréhension de la condition féminine sans prise en considération de la dimension incarnée de leur existence. Les hommes, eux aussi, sont confrontés au vieillissement et à la dégénérescence. Mais, et c'est ce qui fait toute la différence, ils peuvent tout à fait vivre en l'ignorant ou en la déniant, car rien de leur puissance de faire dans le monde n'est menacé par le passage du temps. Aucune limite temporelle n'oblitère leur capacité procréatrice. Aucune modification physiologique ne change d'un coup le regard porté sur eux. Aucune urgence ne les enjoint à programmer leur existence. La femme, elle, est condamnée à compter, à égrener, à planifier pour tenir compte de la possibilité d'enfanter à laquelle elle ne peut se soustraire et qu'elle s'est circonscrite. J'ai fini pour la citation. T'en penses quoi ?
Je crois qu'il n'y a pas mot plus conscrit. Bon, on a bien compris, là.
Bien compris.
On a tous bien compris.
Avec ton voile de Vierge Marie, qu'est-ce que tu nous fais ?
Alors, je ne suis plus ça que tu crois.
C'est bête.
avait un truc de toute façon important dans la place du corps chez la femme, le fait que la femme soit, je dirais, plus incarnée que l'homme.
Ouais. Et déjà, mais ça, déjà c'est là pas quelque chose. Il y a plein d'auteurs qui soulignent.
C'est surtout, t'as bien lié les termes. Bon, les termes. L'enchaînement des termes, bon, faut suivre.
Bien fait les liaisons.
Bon, les liaisons. Toi, t'as tout étudié, quoi. Ouais, faut étudier. Quoi. Heureusement que c'est enregistré là maintenant.
T'as remarqué qu'on t'a enregistré aussi, Benjamin. T'en es conscient.
Non, mais on coupera au montage.
C'est long.
Comme d'hab. Non, c'est vraiment.
Il n'y a jamais de montage.
Franchement.
Bon, on en est au
mais ouais, on pourra revenir. Ouais, on pourra revenir dessus. Ouais, parce que ouais, je trouve ça vraiment intéressant.
J'en ai quelques-uns PDF.
C'est vachement intéressant. C'est surtout que les références que tu as données, je pense que ça pourrait retrancher pas mal ensuite en recherche personnelle.
Oui, j'ai un livre qui s'appelle La Révolution du Féminin.
Ton fonctionnement de répartie, quoi.
Et des articles.
Nice.
Mais j'ai pas lu son livre encore. Je voulais faire un petit laïus sur le mot valeur. Vous avez peut-être remarqué que j'ai pas du tout employé le mot valeur, parce qu'aujourd'hui on parle souvent de valeur féminine et masculine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et pour ça, je vais m'inspirer d'une conférence qu'on a déjà donnée, enfin que Isabelle, une fille du mouvement, a donnée, qui s'appelle La crise de la transmission. Vous pourrez aller retrouver sur Internet. Elle s'est beaucoup basée sur la philosophe Hannah Arendt dans son ouvrage La crise de la culture. Et cette femme soutient la thèse d'une rupture de la tradition qui aurait eu lieu au XIXe siècle et expose ses conséquences. Alors, voici ce qu'elle dit, que la perte de la tradition équivaut à la perte des repères fondamentaux qui structurent et hiérarchisent notre monde, en référence à un fondement qui transcende la société des hommes. Cette perte entraîne une fonctionnalisation de la société dans tous les domaines. Je vais expliquer.
Ah oui, au mieux.
Voilà. Parce que t'as plus cette hiérarchisation de la société, enfin, de ta façon de comprendre la société, t'as plus ce sens des choses qui t'est transmis de génération en génération, tu fais table rase du passé. Eh bien, tu fais plus les choses parce que c'est bon, mais tu le fais parce que ça fonctionne. Grosso modo, l'idée, c'est ça. Là, c'est ce que Isabelle écrivait. Lorsque manque la référence au fondement du monde, c'est la structure de ce monde qui disparaît. Plus rien n'a de sens communément à demi. Et la société a pour seule fonction d'assurer la gestion de la coexistence des hommes de la façon la plus efficace et fonctionnelle possible. La fonctionnalisation de la société aboutit, entre autres, au relativisme des valeurs. Plus rien n'a de sens par soi, tout est fonction sociale. Les réalités les plus hautes deviennent variables d'ajustement pour le fonctionnement de la société. En d'autres termes, on n'agit pas parce que cela a du sens, mais parce que ça fonctionne. C'est ce que je disais juste au-dessus.
Si on avait commencé par ça.
Et donc, le terme de valeur est symptomatique de ce fonctionnalisme. Venu de la sphère économique, le mot valeur désigne un contenu théorique, moral et ou affectif qui remplit une fonction au sein d'un système social. En l'absence de transcendance, ce qui mérite d'être transmis et qu'on appelle aujourd'hui valeur est réduit au même rang que le dernier boulon de la machinerie sociale. C'est toujours Isabelle. Je poursuis. Les valeurs sont des articles de société qui n'ont aucune signification en eux-mêmes, mais qui, comme d'autres articles, n'existent que dans la relativité en perpétuel changement des relations et du commerce sociaux. Par cette relativisation, les choses que l'homme produit pour son usage et les normes conformément auxquelles il vit subissent un changement décisif. Ces choses-là deviennent des entités d'échange et le détenteur de la valeur est la société. Et là, c'est Hannah Arendt qui parle. Les valeurs, dans leur interchangeabilité, sont les seules idées laissées aux hommes socialisés. Bon, là, elle fait une référence à la politique de Marx, mais peu importe. Ceux-ci sont des hommes qui ont décidé de ne jamais quitter ce qui, pour Platon, était la caverne des affaires humaines quotidiennes, et de ne jamais s'aventurer d'eux-mêmes dans un monde et une vie que peut-être la fonctionnalisation intégrale de la société moderne a privé de l'une de ses caractéristiques les plus élémentaires. Saisir d'émerveillement en face de ce qui est tel qu'il est. C'est beau. Et donc pourquoi je dis ça? C'est parce que le féminin et le masculin, à mon sens, ne sont pas des variables d'ajustement pour faire fonctionner la société. c'est féminin et masculin, c'est pas en fonction des relations sociales. Ça appartient pas à la société, mais ça appartient aux hommes et aux femmes qui en vivent et qui en font bénéficier la société. Et c'est assez différent. Et là, j'ai... Ouais, là c'est encore Isabelle, et c'est intéressant. Si le mot valeur n'est autre que la projection de l'importance affective, morale que le sujet donne à la réalité dont il est question, par exemple les valeurs pacifiques, guerrières, maternelles, etc. Entendu ainsi, il y aurait des valeurs féminines et masculines, également subjectives, tout aussi valables et de même poids, mais opposées. Ceci conduit nécessairement à l'incapacité du dialogue homme-femme, puisque chacun projette sa représentation subjective du monde et à la guerre des sexes, quoi, nécessairement. Donc il ne s'agit pas de défendre une vision du monde féminine dans un monde structuré par des valeurs masculines, évidemment pas, mais d'enrichir les perspectives par notre approche de femme pour aboutir à une représentation du monde équilibrée. Et ça me semble assez extrêmement important. Et c'est un des intérêts qu'il y a à penser la vocation, justement. C'est que la société n'est pas le terrain de jeu entre le camp des hommes et le camp des femmes, pris dans une lutte acharnée dont l'enjeu serait de façonner un monde à leur ressemblance, selon leur point de vue et leur manière de faire. Mais l'enjeu, c'est comment chacun œuvre pour un monde commun. Et comment on œuvre ensemble pour la réalisation de l'humanité en ce monde et en soi-même. Et c'est vraiment très différent. Tes remarques, tes réflexions ?
Amen.
Aucune.
Amen.
Amen. Amen, amen. Et là, c'est la dernière partie. Moi, j'aimerais bien justement suggérer que les différentes crises qu'on traverse, à des degrés peut-être différents, sont en partie une crise du féminin dans notre société.
Le matriarcat ?
Non, pas uniquement, non.
Question.
Non.
Enfin, selon... Moi, je réponds.
Mais bah, moi, je
réponds.
Ouais. Vas-y, réponds, Manuel.
Mais non, pas du matriarcat, du féminin.
Féminin, oui. On peut en parler en termes de...
Ben non, quand tu parles de matriarcat, ça suppose que tu veux un monde qui soit construit exclusivement
pas forcément
sur les valeurs...
En termes de piliers. Parce que ce sont forcément les anciens qui apprennent au nouveau. Et donc, le matriarcat, je le débute, non pas de l'enfant... De l'enfant qui va devenir femme, mais plutôt de la femme qui va éduquer les enfants.
Ouais, pris dans ce sens-là, ouais.
Voilà. Donc, c'est-à-dire, en fait, la jurisprudence matriarcale. Voilà.
Oui, il y a un peu de ça. C'est bien de définir les termes.
Oui. Surtout pour des hommes.
C'est balèze pour un homme.
Ouais, c'est. Il faut beaucoup d'écoute pour entendre.
Il faut beaucoup d'écoute. Est-ce qu'il reste un peu de tunnel ?
Tout à fait.
Merci Benjamin. Merci Jean-Marie.
Je t'en prie.
C'est lui qui répond, c'est ma question. C'est ça
un collectif.
Ah ouais. Merci beaucoup. Parce que ça fait soif de parler en fait.
En fait, tu parles quand là ?
C'est vrai. Attends, deux secondes. Bon, je vais vous résumer, mais vraiment, vraiment résumer. Ce que certains auteurs ont estimé être la crise essentielle du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Moi, j'ai choisi Max Weber et Jacques Ellul. Bon, c'est pas forcément...
De la science-fiction ?
Non, bah, c'est pas du tout de la science-fiction. Mais disons qu'il y a peut-être... Eux, ils vont trouver que le facteur déterminant, c'est la technique, la rationalisation du monde, etc. Peut-être que c'est pas le seul. Mais en tout cas, c'est leur analyse. Alors, je vais vous lire le petit paragraphe de synthèse que j'ai fait avec beaucoup de peine. La fonctionnalisation de la société est l'une des caractéristiques de notre culture occidentale moderne. Et peut-être, justement, selon ces auteurs, pouvons-nous expliquer par elle la dynamique de nos sociétés. Donc, on a l'analyse d'Anna Arendt qui converge effectivement avec celle de Max Weber et Jacques Ellul, qui estime que le système économique et plus largement encore l'organisation sociale sont caractérisées par les phénomènes de rationalisation et de technicisation. Ces phénomènes sont provoqués par la perte des principes moraux au profit d'une logique d'efficacité et mue par le désir de puissance et de domination. Le tout, c'est quand même important de le souligner, avec la complicité des victimes qui se complaisent dans le confort et abdiquent de leur liberté. Et les conséquences sont multiples. On va avoir des relations sociales utilitaires, le désenchantement du monde, qui est une formule connue de Max Weber, l'aliénation des consciences, etc. Ça, c'est présent chez Jacques Ellul. Je ne sais pas si c'est présent aussi chez Max Weber, mais... c'est que ce perte de sens et de repères, de liberté, de capacité, de jugement, favorise l'émergence de systèmes à tentation totalitaire. Et il me semble quand même qu'on est dans ce genre de système. Et là, c'est encore Isabelle aussi qui nous parle. Elle nous dit qu'en l'absence de fondement transcendant dans lequel s'ancrerait une tradition à valeur normative, ce sont les fluctuations de l'opinion publique qui fonctionnent désormais comme substitut de normes. Ça veut dire que ce qui est bien, ça ne va pas être en fonction de valeur morale ou d'une transcendance quelconque, c'est en fonction de l'opinion publique. La caractéristique structurelle principale de cet état à tentation totalitaire, c'est la verticalité de l'imposition de l'idéologie aux hommes. Ça vient d'en haut, c'est imposé au peuple. Par opposition avec la structure plus complexe, à la fois horizontale et verticale, parce que fondée sur un rapport entre personnes, ça c'est l'horizontalité, et mais souvent asymétrique, t'as des personnes qui ont plus d'autorité que d'autres, et c'est la verticalité. Donc, une structure plus complexe d'une transmission et d'une tradition authentique. En effet, la transmission se fait par le contact de personne à personne dans les familles, dans les communautés locales, dans les écoles, libres, dans tous ces fameux corps intermédiaires qui structurent la vie sociale dans toutes les sociétés, bah, sauf dans les sociétés totalitaires. L'idéologie, au contraire, s'impose de haut en bas, de l'État à l'individu, par l'intermédiaire d'une administration tentaculaire. Et donc là, l'idée, c'est que quand aucune tradition et aucun cadre culturel commun ne structure plus la réalité intersubjective, c'est la pensée unique qui occupe la place et s'étale dans un espace complètement uniforme. Et là, mon propos, c'est de dire que ce résultat accablant peut être analysé comme celui d'un monde construit sans les femmes. Alors, c'est peut-être un peu radical, je le conçois, mais il faut quand même... parfois, il y a besoin de radicalité pour faire comprendre les choses.
Mais encore.
Et ben, ouais.
C'est une perspective à prendre en compte, ça n'a pas prétention à tout expliquer. Je ne dis pas que la société a tous les travers parce que les femmes ne sont pas là et que c'est la faute des hommes.
Nous, hommes, sommes toutes, oui.
Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on rejoint la position féministe qui veut que tout ce qui a trait aux femmes et au féminin globalement a été systématiquement dévalorisé et mis de côté au profit des hommes et du masculin. Et là, je vais vous développer ça.
En lésant la complémentarité toujours.
Oui.
Faut oublier que pour pouvoir adapter quelqu'un à une nouvelle pensée, il faut aussi lui donner les règles fondatrices qui sont l'acceptation et l'utilisation du verbe qui en parle.
Plutôt que l'économie, c'est la séduction.
Ah mais oui, c'est ça.
C'est aussi changer de façon d'en parler.
Et c'est par le fait qu'on veut séduire qu'on a viré tous nos côtés masculins.
C'est beau ce que tu
fais. Et le machisme et tous ces bazars-là. Et puis dès le départ, il y a quelque chose qui n'est pas, parce que départ, l'homme a été créé seul. L'homme a été créé seul. Et au bout d'un moment, Dieu a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi c'était pas bon? Parce qu'il n'en avait rien à foutre de l'environnement. Et il a mis Ève, qui elle s'est éclatée. Elle s'est éclatée avec tous les animaux de paradis. Elle a même rencontré le plus rigolo. Elle a rencontré Lulu. Lulu était le plus rigolo du paradis.
Il faisait de la salsa.
Et moi, je crois que ce qu'on vit là, c'est pour vouloir séduire les femmes, qui fait qu'on en est arrivé là. Parce que moi, je crois qu'un homme n'est pas ce qu'on vit maintenant. C'est vachement plus posé, violent, coq. Tu vois, coq. Gaulois. C'est-à-dire que se délimite un espace où c'est sa famille, son foyer, et on n'a pas à s'approcher. Tu vois, un Gaulois, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas regarder ce qu'il y a dans ses poches.
Quelqu'un ne doit pas regarder que ça a de la maison. Quelqu'un ne doit pas regarder que ça a de la
voiture. Toi, tu dis ça parce que tu es corse.
Non, je dis ça parce que tu es un coq. Et je vois bien que je me comporte comme un canard.
Mais mon tas de fumier, c'est mon tas de fumier. Vous avez compris ?
Très bien dit.
Et à 5 heures demain, je serai encore là.
Eh bien, intervention enrichissante.
Intervention enrichissante.
Mais non, mais c'est pas faux ce qu'il raconte.
Oui, tout à fait. Il y a des choses qui sont
c'est juste pas le propos de la conférence. Ouais. Mais on en a parlé dans d'autres articles et compagnie. Ça aura peut-être le coup de, ouais. de faire un remake.
Mais c'est très intéressant que c'est fait l'effet d'un caillou sur le chemin. Quoi.
Oui. Effectivement. Mais bon, il n'écoutera pas la suite. C'est dommage parce que ça l'aurait peut-être convaincu.
C'est enregistré.
Ouais. Ce qu'on a vu. Avec la critique très légère que je viens de faire, c'est que la société, elle est caractérisée par une volonté de maîtrise absolue, une instrumentalisation, objectivation, l'efficacité, l'appétit de profit, possession, de domination, etc. Et ça a un rapport avec les...
C'est assez gaulois.
Ouais, c'est ça, c'est assez gaulois, exactement.
Finalement. Ouais, non, mais si tu peux le redire pour Philippe.
Est-ce que le terme rustre...
Non, c'est pas rustre.
C'est que, non, c'est le coq.
En fait, c'est pas mauvais, mais quand c'est laissé seul et quand c'est, je sais pas comment dire, quand ça s'emballe, sans rien pour freiner la course, et ben là, ça part en couille, quoi. C'est le cas
frénétique,
de dire.
Frénétique.
Ah, puis c'est surtout quel est l'objectif. Enfin, quand le coq défend la basse-cour, ça a du sens. Quand il n'y a plus de basse-cour.
Et puis il va chercher la mère au col du poulailler d'à côté pour lui piquer son truc.
Oui, mais là... Là, ça a du sens, mais c'est enfin moi je suis assez de cet avis sur la construction de notre société qui est quand même sur ce fonctionnement gaulois de coq. Si ce n'est qu'il n'y a plus de poulailler, donc du coup tout se barre en sucette.
En couille.
Oui, couille, pardon. Couille. J'ai dit sucette, mais finalement c'est couille.
Disons des mots François.
C'est ça. Entre gaulois.
Des mots à propos.
Parlons gaulois.
Voilà, le tout à propos.
Alors, là, je me suis appuyée sur un article que j'ai trouvé dans une... pas tout à fait par hasard, c'est dans une revue du magazine Ultraya, c'est un magazine de métaphysique, spiritualité et compagnie.
Et, est-ce que tu peux représenter ce que signifie le mot Ultraya ?
Non, c'est pas grave.
Non, c'est pas important.
Ouais, non, je crois que c'est pas important, parce que sinon on perd le fil.
Ouais.
Ok. Bah, tu me diras après en aparté. Et l'article, ça s'appelle « Sagesse du féminin et âme du monde ». Et le titre de la revue, je m'en suis inspirée, c'est « Exalter le féminin pour sortir de l'impasse ». Donc, je vais vous dire ce qu'elle raconte et en même temps, je vais commenter parce que je trouvais que c'était pas forcément... que ça méritait des
quelques ajustements.
Non, plutôt c'est pas tellement des ajustements, mais...
Des compléments.
Ouais, des développements. Donc voilà, elle va nous parler de ce qui est considéré comme masculin et féminin. Elle dit, or on tient généralement le masculin du point de vue psychique, intérieur, etc. Que le masculin relèverait de l'affirmation, de l'intellect, du logos. Logos c'est la parole en grec. Du mouvement, de l'action et du pouvoir. L'idéal masculin tournerait autour des valeurs d'objectivité et de lucidité. Voilà, on rejoint ce que Philippe a dit dans son intervention théâtrale. Au féminin, on attribue volontiers les valeurs de compassion, le domaine du sentiment, de l'accueil de l'autre, de la relation, de la réceptivité, de l'intériorité, de la dimension, et la dimension de l'éros. Alors elle dit, qui assure la médiation entre l'amour divin et l'amour humain.
C'est vrai.
Peut-être, je ne sais pas trop. Ce qu'elle entend par là, en fait.
C'est entre l'attirance et le refoulement.
À développer. Non.
Comment ?
À développer. Alors.
Hors sujet toujours.
Voilà. Je suis pas sûre de comprendre en fait.
Eros, philos, agapé. Après, c'est compliqué de pouvoir lier.
Non, mais en quoi l'éros ? Qu'est-ce qu'elle en a dit cette dame ? Que l'éros.
Ouais, l'éros assure la médiation entre l'amour divin et l'amour humain.
Oui.
Je ne sais pas ce qu'elle veut dire en fait.
Non, moi non plus.
Donc je. Enfin, sans commentaire.
Je pense que c'est une assimilation entre le toucher, le désir et le toucher. C'est pas une décadence du terme, mais je veux dire, c'est. Voilà. L'éros, c'est ça, c'est en fait l'affinité. L'affinité. Que tu peux. Voilà. Donc. Hors sujet.
Voilà.
Parce que si tu baissais un peu ta... Là-bas,
pourquoi j'ai un filtre, hein. Ouais. Pourquoi t'entends plus, mieux. C'est pas moi, c'est la vertu qui couvre.
Non, mais dans son sens, Edith Stein, elle parle à ce sujet une relation plus masculine aux choses, en ce sens que l'homme conquiert, utilise ou construit, alors que la femme, elle est plus immédiatement portée vers les personnes. L'univers masculin, il serait chosal, et l'univers féminin, personnel. Elle ajoute aussi que la femme tend plus à la totalité, et tandis que l'homme se réalise en spécialisant, en distinguant, etc. Voilà. Dans l'article, l'auteur, eux, dit aussi que le féminin ferait corps avec la nature. Et là, elle ne développe pas, donc elle dit juste cette petite phrase. Alors moi, je voulais développer. Ouais. Et donc, bon, là, on retrouve les réflexions de Camille Froidlot-Métairie qu'on a eues tout à l'heure, selon laquelle le féminin, là, je la cite, et le principe d'un rapport au monde et aux autres marqué par l'irréductibilité de l'incarnation. Si les hommes peuvent tout à fait se vivre comme des êtres désincarnés et abstraits, chacun d'entre eux figurant à lui seul l'universalité de la condition masculine en tant que critère et mesure de toute chose, les femmes ne peuvent pas s'extraire d'une relation aux autres et à elles-mêmes qui passe par le corps. C'est assez fort ce qu'elle dit.
Oui.
Ça converge aussi avec Edith Stein, et ça c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, Manuela. L'âme féminine vit plus intensément dans toutes les parties du corps, alors que le corps masculin, lui, paraît avoir un caractère plus instrumental. On peut dire que la femme est un corps, tandis que l'homme a un corps, selon la pensée d'Edith Stein.
Ah ouais, elle dit ça, Edith Stein.
Ça peut se... Elle dit pas
toujours,
ça à proprement parler.
C'est toujours basé sur les critères d'origine, je veux dire. Ça donne toujours pas le terme de la... T'as toujours pas trouvé le terme de la complémentarité, là. Pour ce nouveau monde qu'on est en train de construire là avec cette réflexion nouvelle et voilà ce regard nouveau et puis c'est surtout cette prise en main de l'homme tu vois sur sa naturité.
Tu trouves qu'on ouais bah écoute tu me diras à la fin de la conférence si on a
des solutions.
Ouais si les pistes de la complémentarité sont éclairées ou pas.
Je pense que il faut faire lumière.
Il faudra faire lumière.
Il faudra faire lumière.
Alors moi je voulais ajouter aussi que les femmes ont davantage une intelligence du concret qu'elles embrassent par leur sensibilité et le mode intuitif, tandis que l'homme lui est plutôt porté vers le concept, l'universel. Voilà, la femme c'est concret particulier, homme plutôt concept universel. Ça ne veut pas dire que l'universel et le concept sont inaccessibles aux femmes, mais inversement. Hein.
Oui, oui, mais ça va avec l'incarnation.
Oui.
J'imagine ce qui est important ensuite, c'est dans la prochaine conclusion, c'est de savoir, avec une objectivité certaine, tu vois, c'est ce que pourront donner justement ces deux clichés, tu vois, ces deux clivages mélangés, c'est-à-dire donner un rendu de personnes bien entendantes et bien entendues, voilà, qui partiraient dans ce concept-là et qui créeraient donc du coup un nouveau monde, puisque c'est du coup un nouveau regard sur notre humanité, sur notre...
On pourrait essayer de faire une télé-réalité et mettre en scène l'utopie
de complémentarité, parce qu'en fait, moi je suis vraiment très bloqué sur la complémentarité. Je peux pas... Moi, je rentre pas sur des défis, des trucs où on a montré... Non, pour être très très clair, en fait, sans complémentarité...
Mais là, en te disant quelle est la manière de faire d'une femme et la manière de faire d'être, voilà, de percevoir d'un homme,
oui.
Eh ben, on dessine un chemin de complémentarité.
Mais oui,
d'accord.
C'est pour mieux comprendre.
Alors, ce qui est important là-dedans, je pense, c'est que justement qu'il y ait une facilité d'accès à cette compréhension-là, ouais. C'est-à-dire que ce soit une valeur donnée à tout le monde. En termes de quoi, tout le monde saurait exactement comment se comporter. Puisque ce serait une naturité.
Ça ne veut pas dire que tu dois te comporter nécessairement telle ou telle manière. Il faut développer ça en toi. Enfin, développer les facultés.
Il faut le développer en soi, mais donc du coup, faut aussi l'instituer dans les premières institutions qui sont les écoles. C'est qu'aujourd'hui, j'imagine qu'il y aura un prochain sujet qui parlera de la parité, puisqu'on va y arriver. C'est le 21e siècle. Donc. On va y arriver bientôt.
Ouais. Faut concrètement la mise en place. Faut voir.
Ce que je pense qui est important de comprendre dès le départ, c'est que mettre l'homme. Et d'ailleurs, tu vois, on commence toujours par Il y a que les galants qui passent par la femme avant de passer par l'homme. Ah, oh, pardon, excusez-moi.
Ça. Non, c'est pas ça, c'est que je crois que Marine a bientôt terminé. Et après, on s'en parle. Okay. Comme ça, ça me paraît plus facile. Parce que sinon, on n'a pas le. Tu vois, on n'a pas le.
Je vous prie de vouloir m'excuser.
La fin du développement. Mais t'es totalement excusée et totalement bienvenue. À la fin, quand Marine a terminé.
C'est un homme, il coupe la parole, c'est normal.
J'ai pris ma voix à la plus féminine.
Oui, ça se voit. Ouais. Bon, et juste un dernier mot sur ce faire corps avec la nature. Il me semble que ça évoque la dimension charnelle de la femme au sens de sensualité, la gestation, l'enfantement, la femme nourricière. Voilà. Et ça fait aussi qu'elle a un rapport particulier avec le corps, la question charnelle. Alors, l'auteur de l'article poursuit. Force est de constater que depuis l'Antiquité, le monde occidental a survalorisé la logique rationnelle, mathématique et syllogistique, tout comme l'expérience perceptive. C'est important ce mot perception, c'est lié à la vision. Et la vision, c'est ce qui distingue, ce qui sépare, ce qui identifie. Et ça va être à la source d'une pensée dualiste qui opère des dichotomies, tout ça. Des dichotomies qui va opposer bien, mal, noir, blanc, etc. Parce que la femme, elle a plutôt tendance à mettre les choses en relation.
Plutôt qu'à les couper en binaire, en plus.
Plutôt qu'à les cloisonner. L'auteur poursuit. L'helléniste Jean-Pierre Vermont montre bien, dans les origines de la pensée grecque, la scission, puis le passage qui est intervenu au 5e siècle avant Jésus-Christ entre le mutos, le mythe. Alors, elle précise parole et récit explicatif d'une part, qui est défini comme fable et donc dévalorisé. Et le logos, parole reposant sur une activité de la raison et une démarche démonstrative. Et les mythes, ces fables qui t'expliquent la façon dont fonctionne le monde, l'origine du monde, etc. C'est transmis par les chanteurs, les poètes, les religieux peut-être, et aussi les femmes à la veillée auprès des enfants, etc.
C'est pas sérieux, quoi.
Non, c'est pas sérieux, c'est clair. Et on peut aussi mentionner une autre étape de mise au banc de ce qui n'est pas sérieux. C'est moi qui ajoute, au XVIe siècle, c'est les accoucheuses traditionnelles, les sages-femmes quoi, traditionnelles, qui ont été déclarées incompétentes par l'ordre médical masculin, avec l'appui des ecclésiastiques, et remplacées par des personnes certifiées par l'institution.
Voilà. À cause de quoi ?
Au XVIe ?
À cause des décès du
XVIe siècle.
Non, parce qu'on se méfiait de leur pouvoir savoir ancestraux et qu'on voulait contrôler ça. Et on l'a fait en déclarant que tout ça était absolument c'est traditionnel, c'est pas fiable, ça fait appel à des forces un peu
obscures qu'on ne
connaît pas. Et nous, on remplaçait par quelque chose de rationnel, de démontré.
Scientifiquement prouvé.
16e siècle, scientifiquement prouvé, okay. Ouais. Et c'est la belle époque des chasses aux sorcières, où les mystérieux savoirs et pouvoirs féminins au sujet de la sexualité, la naissance, tout ça sont considérés comme faisant appel à des pouvoirs surnaturels et maléfiques. Bah ouais.
Bah oui, forcément.
Bon, ça me semblait
à ce moment-là forcément
intéressant. Alors attendez. En matière de dévalorisation aussi, il faut rappeler que Platon, qui a tant influencé la pensée occidentale, considère que s'il y a des femmes sur Terre, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont été lâches et bêtes. C'est une punition.
Puisque c'est comme ça, dans ta prochaine vie, tu seras une femme.
C'est un peu ça, quoi.
Oh non, non, je préfère être mon chien.
Et puis voilà, Aristote, chez qui les femmes sont passives, dominées par le principe matériel, qui se demandent si elles ont une âme, etc. C'est quand même des philosophes qui seront à l'origine de la pensée occidentale.
Absolument.
C'est vrai.
Et ça, c'est pas sans conséquence.
Influence, comme tu dis.
Du féminin et du masculin. Masculin.
Oui, et puis on ne peut pas faire abstraction de ça.
C'est clair.
Alors, je cite toujours l'auteur. Comme le rappelle à raison le sociologue que je ne connais pas, Michel Maffezoli, à propos des valeurs dominantes de la modernité, l'imagination que Descartes et Malebranche appellent la folle du logis ne permet pas le bon fonctionnement de la déesse raison. S'inscrivant dans la ligne de valeurs patriarcales, nos sociétés ont relégué du même coup ce qui relève du cœur et de la réceptivité dans la catégorie de l'irrationnel archaïque. Pour reprendre la formule de la psychanalyste Lili Jalliot, elles ont, ce faisant, donné la suprématie à l'intelligence de type masculin qui recherche des résultats au détriment de l'intelligence de type féminin qui recherche des liens. Et à ce propos, c'est marrant, c'est une coïncidence, j'ai écouté il n'y a pas longtemps une conférence, alors je ne sais plus de qui, une femme qui disait que l'étymologie du mot intelligence viendrait des termes latins inter et ligare, c'est faire des liens.
Absolument. Absolument. Oui. L'intelligence.
C'est quand même parlant.
C'est très parlant.
Réflexion avancée, quoi.
Mais on a confondu intelligence et raison. Mm-hmm.
Sur cette propension des femmes à être plutôt dans le relationnel et dans le lien, il y a les théories du care qui sont développées aux États-Unis, que je ne vais pas exposer ici parce que ça fera l'objet de conférences ultérieures dans ce cycle fil d'Ariane. Mais grosso modo, elles réunissent le travail de chercheurs, chercheuses surtout, qui tentent de mettre en évidence et d'expliquer l'inclination des femmes pour le soin, l'attention à l'autre. Voilà. Mais c'est quand même assez percutant. Ah oui. Alors, oui, il y a une considération toujours de Xavier Lacroix qui dit qu'en plus de la dichotomie raison-cœur, il y a aussi celle de esprit-corps. Mmh. Et ça, il le montre en citant des exemples de notre monde contemporain. Et je vais vous les livrer. Il parle du règne de la technologie qui va induire de nouvelles relations aux autres, au corps, une communication virtuelle qui n'est plus incarnée. Du corps appréhendé comme machine, du corps augmenté, l'homme qui cherche non plus à guérir ou réparer, mais à dépasser les limites corporelles. Tandis que moi, j'ai tendance à penser que le corps tel qu'il est donné, c'est le lieu d'une vie qui est pleinement humaine, et que c'est dans ses limites, et même grâce à ses limites, qu'on pourra la vivre, quoi, qu'il y a un bonheur à les habiter, ses limites. Il va parler aussi du corps qui est objectivé, objet d'études, de savoir, de manipulation. Et l'oubli que c'est d'abord moi qui vis mon corps. Et d'ailleurs, la terminologie est à cet écart assez parlante, parce qu'on dit « j'ai un corps » et pas « je suis un corps » la plupart du temps.
Oui. Ah, c'est vrai, ça.
Et, ouais. Et même dans encore la terminologie, on parle de corps, et ça relève du biologique et de l'anatomique, et non plus de chair, qui est le lieu de l'expression des sensibilités, des affections. Ça aussi, c'est parlant.
C'est super.
Il y a aussi quelque chose qui est très fort dans notre société, c'est la crainte et le déni de la fragilité, des limites, de la corruptibilité du corps qu'on aimerait évanescent. Et là, on a le culte de la performance sexuelle, la peur de la vieillesse, les crèmes antirides. Vous ne mettez pas de crème antirides, mesdames.
Qui est un autre atelier, d'ailleurs.
Oui, c'est clair. Et même dans le mouvement écologique, l'attention au corps, elle est assez relative parce qu'elle est liée uniquement à l'environnement extérieur. Ouais. Et elle va rarement jusqu'à ce qu'on peut appeler une écologie humaine, selon laquelle notre corps lui-même est notre première habitation. Mmh. Voilà des exemples qui montrent cette dichotomie esprit-corps. Voilà. Le cœur et le corps, aujourd'hui, c'est pas très, très bien vu, quoi.
Ouais, j'ai pas vérifié, mais on m'a dit que le mot corps n'existe pas dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il y a des tas de mots pour désigner chair,
en fait,
des parties du corps.
La langue hébraïque, elle fonctionne sur un mode très féminin.
Oui, absolument. Mais le mot corps, n'existe pas. Alors je me suis dit, c'est juste, je trouve ça très percutant, remarque.
Ok. Enfin, je dis ça, que ça fonctionne selon le mode féminin, parce que je l'ai lu, après. Moi, je suis pas hébraïsante.
C'est étonnant. Le corps n'est pas un objet. Mon corps m'appartient.
Ouais. Et j'en ai fini très bientôt avec la citation longue de cette dame, qui nous dit... Écoutez donc. « Privé de racines nourricières, le raisonnement logique et technologique dominant a conduit le monde à se bercer d'une illusion de toute puissance. » Le mythe d'une science prométhéenne qui nous livrerait les clés de l'univers et dominerait la nature s'avère plus que jamais auparavant dans l'histoire humaine pure vanité. Le désenchantement du monde prophétisé par Max Weber, qui pointait l'avènement d'un ordre réduisant au matériel, à la rationalité et à la technique, n'en est-il pas l'une des plus affligeantes conséquences? Ce glissement se faisant au détriment du sacré et de la nature, qui se trouve dès lors disqualifié, à l'encontre d'une intelligence et d'une sagesse de relations éminemment féminines, plus réceptives et plus conscientes de ce qui relie l'homme à l'hiver, à son environnement, aux autres et à lui-même. Voilà. Bon, tout ça, c'est des indications qui sont évidemment sommaires et qui ne valent qu'à titre d'indication très générale pour une tâche qui requérerait beaucoup plus d'études en profondeur. Je pense que c'est peut-être caricatural les choses qu'on a présentées au sujet des hommes et des femmes. Il faudrait entrer davantage dans la finesse, mais au moins on voit les lignes de force. Mmh. Alors là, c'est la conclusion. Je ne vais pas vous spoiler le contenu des conférences à venir. Voilà, qui vont développer les dimensions. Là, je vais un peu parler. Mais je voudrais simplement vous dire que les femmes sont au cœur des enjeux culturels, écologiques, je n'ai pas trouvé le mot autonomiste, parce qu'on peut dire ça comme ça, spirituels et relationnels de notre époque. Et ça pour trois raisons. La première, c'est parce qu'elles sont particulièrement affectées par les problèmes qui sont liés à ça. La seconde, c'est parce qu'elles possèdent une clé pour nous permettre de leur trouver une solution. Et la troisième, c'est parce qu'elles se sentent concernées par ça. Et j'ai appris dernièrement que, par exemple, 80% des abonnés du magazine Kaizen sont des femmes.
T'es obligé d'en citer trois, là.
Non, c'est parlant, quand même. Et le magazine Kaizen, c'est un magazine... alors, je sais pas quel lien exactement alors, il entretient avec, mais bon, un magazine qui est en relation avec Pierre Rabhi, son mouvement Terre et Humanisme. Et ça parle beaucoup d'éducation... Enfin, c'est les alternatives à l'éducation, au mode de gouvernance, à l'économie...
À
l'entraide.
Non, pas du tout.
Non.
Solidaire, tu connais pas Pierre Rabhi.
Spiritualité et tout ça. 80% des abonnés sont des femmes. Moi, je trouve ça parlant quand même. Oui. Et d'ailleurs, Pierre Rabhi, il a toujours eu l'intuition forte que la Terre et les femmes avaient partie liée. Oui. Et souffraient tous deux d'une domination qui prenait source au même endroit, en fait, dans cet appétit de maîtrise, de domination, de profit. Ça, il le montre assez bien.
Et de régénérescence.
Et d'ailleurs, dans ce même mouvement, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu des commentaires. Il y a l'encyclique papale Laudato Si sur l'écologie. Je sais qu'elle est considérée comme étant assez radicale par les mouvements écologistes, qui fait un lien entre la dévastation de ce qu'il appelle notre maison commune. Écologie, la racine grecque de écologie, c'est oikos, c'est la maison.
Ah, d'accord.
Il fait le lien entre cette maison commune, la violence subie par les personnes vulnérables et le rôle des femmes. Ça, c'est assez... C'est assez fort aussi. Ouais. Et j'aimerais bien juste vous donner un exemple, en fait. Parce qu'aujourd'hui, cette idée, elle se développe, l'idée d'une écologie assez intégrale qui met en lien ce qui détruit la nature, les autres et soi-même. Et qui appelle une forme de révolution des consciences pour faire advenir l'humanité d'abord en soi, puis ensuite sur la Terre. Et cet exemple, c'est la déconnexion des rythmes naturels et l'accélération de nos vies. On en parlait tout à l'heure avant la conférence, qui nous prend dans un espèce de tourbillon d'occupation, poussé qu'on est par la société qui veut que la seule valeur qu'on ait, enfin que les vies n'ont de valeur que quand elles produisent. Et aussi, je pense que c'est pas seulement cette société-là qui nous pousse à entrer dans ce tourbillon, c'est le désir de calmer l'anxiété qui nous habite, d'être des êtres finis qui vont mourir, et il faut oublier ça. Donc toute cette accélération, ça génère du stress, ça nous coupe des autres. Ça, moi, je l'ai expérimenté, plein de fois. Ouais, d'ailleurs, dernièrement, je préparais sans doute cette conférence, et j'étais prise dans mes pensées, j'étais en retard pour aller au boulot, donc je marchais vite dans la rue. Et là, toc, une femme arrive devant moi et s'arrête et me dit « Excusez-moi, madame, est-ce que la rue, machin, c'est bien par là, ta-ta-ta ?» Et là, j'ai hésité entre soit lui dire « Désolée, je suis pressée », et soit m'arrêter et lui expliquer. Et je me suis arrêtée et je lui ai expliqué, parce que je me suis dit « Mais je ne veux pas être en permanence dans ma bulle, sans pouvoir entrer en interaction avec les autres et estimer qu'ils me dérangent, quoi. » Donc je l'ai fait.
C'est
très parlant aussi quand on est dans le métro et qu'il y a des musiciens, pas n'importe quel musicien, mais des bons musiciens qui jouent quelque chose, et t'as les gens qui s'arrêtent pour les écouter, et d'autres qui passent, et ça défile. Et tu dis quand même...
Alors qu'ils ont la même oreille, ils ont la même oreille, ils savent très bien c'est la même musique.
Mais stop, arrête-toi, quoi. Ouais. Et regarde, et arrête ton train fou furieux d'existence. Donc, à ce propos, les femmes savent offrir une autre perspective, parce qu'elles ont le temps long. Déjà, Elles savent qu'il faut 9 mois. Elles le trouvent ou
elles l'ont ? Non, elles l'ont. Ah, elles l'ont, hein. Elles sont comme ça.
Elles trouvent... elles savent qu'il faut 9 mois pour mettre au monde un enfant. Et que pour en faire un homme, il faut perdre son temps pour lui, répéter maintes et maintes fois la même chose pour espérer un jour un résultat. Sont consacrés à des tâches humbles, enfin, qui n'apparaissent pas, qui produisent rien à première vue. C'est tout cela sans attendre de retour sur investissement. C'est, tu vois partir, s'envoler libre le fruit de tout ce travail. Et puis, ce que disait Camille Froidevaux, c'est qu'elles ne sacrifient pas leur vie familiale, enfin, pour la plupart, pour le travail, elles cumulent les deux. Elles sont capables de dire stop à leur carrière professionnelle pour se consacrer à leur famille, à leur enfant, et revenir 3 ans plus tard pour se faire entendre dire par le recruteur « Madame, le marché a terriblement changé en 3 ans, c'est sûr que vous êtes toujours compétente ?» Donc, franchement, c'est... Enfin bref, je trouve que l'être féminin dit stop à cette course folle de l'humanité et même leur beauté, quoi. C'est un appel à la contemplation et à se poser, à faire silence et à regarder. Donc voilà, pour cette petite perspective.
Promis, on le fera. Merci Marine.
Attends,
merci
Marine. J'avais un mot. Mais oui, c'est qu'on n'a pas dit finalement quelle était la vocation de la femme.
Non, toujours pas.
Mais je ne vais pas le dire parce que moi je ne sais pas. Je laisse ça à votre.
Tu laisses ça là. Alors du coup, il y a quelques hommes qui t'ont entendu.
Juste quelque chose moi qui me parle, c'est que Edith Stein, voilà, selon elle, c'est être compagnie mère. Et moi, j'aime entendre cette maternité en un sens spirituel, qui serait de faire advenir l'humanité en l'homme, petite tâche. Voilà. Et en lui rappelant d'où il vient, à quoi il est appelé et dans quelles limites. Il est appelé à réaliser cette humanité.
Petit H, c'est toi qui mets un H sur la femme en disant petit H ?
Non,
un seul homme.
Un seul homme. Ok.
Sur l'homme.
Sur l'homme, pas sur la femme.
Petit H.
Voilà. Et forte de cette conscience-là, on aura des êtres pas inconsistants comme on les a aujourd'hui et qui sont complètement happés par les désirs, les facilités et si facilement manipulables et. Est soumis au diktat de la société ambiante. Et donc, voilà. En tout cas, dans le mouvement auquel j'appartiens, on essaye de faire émerger quels sont les enjeux féminins de notre temps, les combats des femmes, et pour faire en sorte que aider les femmes à rayonner d'elles-mêmes pour la société. Et il nous semble que l'existence même des femmes, ou l'être même des femmes, est résistance, quoi. Quelque part, l'irréductible gaulois, en fait, il est féminin.
Voilà, l'irréductible gaulois est féminin, je suis d'accord.
Ouais.
Ouais. C'est que s'il n'y avait pas les gauloises, il n'y aurait plus rien.
Ouais.
Ouais, ça, ouais.
Voilà, et là, c'est fini.
Et bien alors, ça finit bien, ouais, sur l'irréductible gauloise. Merci, l'irréductible gauloise.
Quelle rutilante démonstration de la féminité. Et voilà, de son importance.
C'est pas une démonstration, hein.
C'est vécu, quoi. C'est une jolie interprétation.
C'est éprouvé le film.
Tu as éprouvé, donc tu l'as interprété.
Je l'ai interprété, oui, c'est vrai.
Et franchement, touché. Moi, perso, touché. Bon, déjà, parce que je suis ton pote et je t'aime bien. Mais en plus de ça, parce que ce que t'as dit, c'est... Franchement, c'est... Voilà. Qui l'écoute, l'entend. Et qui l'entend peut le comprendre, parce que de toute façon, c'est une cause commune.
Ouais.
Si moi je veux continuer à exister et que mes enfants existent, il va vraiment falloir qu'on vous écoute.
C'est une cause.
Merci pour cette réflexion.
Merci à toi, Marine.
Qui me touche.
Big up.